Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
C'est final.
Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver hein, comme tous les lundis, 19h-20h30. Alors on va encore avoir beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter. On retrouvera le point foot avec notre ami Stéphane Desenclos dans la dernière partie de cette émission à partir de 20h05. Et puis on va aussi s'intéresser un petit peu à l'actu olympique avec Vanessa. On aura, et cette fois-ci on ne l'oubliera pas et on s'en excuse hein, pour le petit manquement de la semaine dernière, eh bien on aura le journal des sports, cette fois-ci avec Darius que je salue. Bonsoir Darius, ça va?
Salut, ça ouais, va et toi?
C'est ta première dans mon Paris Sport hein. Et après t'enchaîneras avec au bout du foot hein.
Ouais.
Voilà. Ça, je veux saluer Vanessa.
Bonjour à tous.
Voilà. On aura Benoît pour sa rubrique mensuelle du MMA et puis un petit peu comme la tradition le veut dans notre émission, on essaye aussi de faire découvrir les sports dont on ne parle pas trop. Ça va être le cas ce soir avec la pelote basque. Et oui, on peut faire la pelote basque, même sur Paris et en Ile-de-France, avec donc notre invité, M. Jean-Luc Salaberry. Monsieur Salaberry, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci pour l'invitation.
Ouais. Bah, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes du 13e, hein, donc voilà.
Oui,
même
c'est
si
vrai,
votre club, c'est dans le 15e.
Ouais,
c'est ça. La pelote basque, ça date de quand? Vous êtes basque, alors déjà, vous êtes avec quoi?
Oh, ça évidemment, hein, plus d'un siècle, un siècle et demi,
oui.
Donc c'est pas les origines du Pays Basque quand même, enfin ça s'en rapproche. Culturellement, c'est un sport qui est issu du jeu de pommes.
Oui, c'est ce que j'ai mis en préparant l'émission.
Voilà. Ouais. Et puis la pratique s'est faite à travers des frontons. Peu à peu, les frontons ont peuplé les villages du Pays Basque.
Mmh.
Au Pays Basque, les villages, ils ont une église,
ouais,
une mairie et
c'est
un fronton.
C'est
quoi.
Superbe. Voilà.
Ça fait partie de la culture. C'est les trois pieds de la sociabilité, ouais, basque.
Alors, il paraîtrait que ce seraient les Argentins qui auraient découvert ce sport, le jeu de paume, et qui auraient été ensuite mis à l'européenne à travers les Basques, justement.
Ouais, c'est un
oui,
peu plus compliqué,
oui,
mais bon, tout le monde s'arroge
ouais,
l'origine oui, de la pelote basque. Elle n'est pas entièrement basque, ça c'est vrai.
Oui.
Et puis les Basques ont beaucoup migré dans leur histoire.
Mmh.
Il y a eu des vagues de migration début 20e siècle, fin 20e. Et donc le sport a migré aussi avec les Basques.
Oui.
Ce qui fait que la pelote basque est très développée, effectivement, en Amérique du Sud, en Argentine notamment.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, dans mon club, enfin, le club de pelote basque de Paris, nous jouons à la pelote argentine, ce qu'on appelle la baline.
Mm-hmm.
Et c'est typiquement le sport argentin par excellence.
D'accord. Je veux saluer Benoît qui se bat avec le micro. Ça va, Benoît? Bonsoir.
Salut tout le monde.
Pleine forme?
Pleine forme.
Bon,
carrément.
Je sais que tu as dû passer un beau week-end de MMA.
Très, très bon week-end.
Tu étais à Las Vegas par avion interposé, je pense.
C'est
savoir,
ça.
Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, quand on aime aussi, monsieur, donc Jean-Luc Salaberry, la pelote basque, on aime aussi le ballon ovale, le rugby. Ça va de pair.
Il faut bien reconnaître
oui,
que c'est la culture sud-ouest,
bah oui,
au
bah
sens
oui,
large du
plus,
terme.
Plus la tauromachie, non? Non.
Moyen.
D'accord.
Non, je
ne
suis pas
ouais,
un fanat de tauromachie.
Ouais.
Même si c'est une culture du Sud aussi.
Oui.
Mais le rugby est une
ah bah
pratique
oui,
sportive.
Bah oui.
Généralement, au Pays Basque, on joue à la pelote et on joue au rugby.
Oui.
Quoi.
Mmh.
Voilà.
Très bien. Donc, c'est facile de faire vivre ce sport sur Paris et en Ile-de-France?
Oui, ce n'est pas difficile au sens où ça nécessite des infrastructures, hein,
ouais,
évidemment. Donc, on a besoin d'infrastructures pour pouvoir pratiquer la pelote basque, donc des frontons, des trinquets,
mmh,
des murs à gauche.
Oui.
Il en existe plusieurs à Paris. Il y a
vous allez nous expliquer tout ça, hein, c'est un petit peu technique.
Okay,
hein. Ouais, ouais.
Okay. Mmh. Il y a plusieurs types d'infrastructures et donc, effectivement, à partir du moment où on a ces infras, il y a beaucoup de Basques à Paris, hein,
bah oui,
et beaucoup
bah oui,
de familles d'origine basque aussi.
Ouais.
Et puis, il y a des noms basques aussi. si je regarde dans mon club, on est à peu près moitié-moitié à être d'origine basque ou pas. Et
mmh,
donc, la pratique, finalement, s'ouvre à tous les utilisateurs possibles.
Hein. Alors, vous êtes présent d'un club dans le 15e, c'est présent du club pelote basque de Paris 15,
ouais,
hein, c'est ça, ni plus ni moins.
Exactement.
Ouais. Mmh.
Exactement.
Donc, combien de membres, combien de licenciés?
On est 130 licenciés.
Ah oui, quand même.
130 licenciés, on bénéficie d'une infrastructure qui se situe sur les toits de Paris, puisque notre trinquet se situe au sixième étage d'un immeuble Art déco. C'est un site exceptionnel.
D'ailleurs, un sacré décor.
Ouais. Voilà, il y a un très très beau décor. C'est un style. Le trinquet lui-même date de la période Art déco. Et donc, c'est un bâtiment qui est classé. Et on a, c'est un, ce qu'on appelle au rugby un vieux socios, un club socios, où effectivement les personnes qui venaient dans ce club venaient aussi pour pratiquer le sport, mais aussi surtout pour se sociabiliser à d'autres au sein d'une ville comme Paris, qui était une très très grande ville déjà au début du XXe siècle, bien entendu.
Mmh. Alors, la tranche d'âge de votre club. Est-ce qu'il y a des tout jeunes qui font ce sport ?
Bien sûr, il y a une école de pelote, il y a une école de pelote qui fonctionne le mercredi. Et ensuite, on a toutes les tranches d'âge jusqu'à 80 ans. C'est l'une des grandes qualités de cette pratique sportive, c'est qu'on peut jouer à la pelote toute sa vie. Mmh. Et donc, on n'arrête jamais ce sport. Si on le souhaite, si on est passionné, on peut pratiquer ce sport toute sa vie. Ce qui n'est pas le cas d'autres disciplines qui sont plus rigoureuses sur le plan physique. Mmh. Nous, on pratique, c'est un jeu qui est à la fois ludique, exigeant sur le plan physique et cardiaque, mais aussi assez ludique. Donc, voilà.
Tout le monde a sa place, quoi.
Exactement.
Exactement. Et puis, il y a beaucoup de femmes ou de jeunes filles qui font ce sport.
Et oui, il y a des femmes qui pratiquent ce sport. On est à peu près à 10% des licenciés qui sont des licenciés féminines. Ça se développe. La période Covid a eu un impact assez fort quand même sur à la fois la perte des jeunes aussi, l'arrêt des écoles sportives pour les enfants, mais aussi sur les féminines. Et donc, on a relancé ça dès la sortie du Covid, en essayant de favoriser un petit peu par de la discrimination positive, des prix de licence plus favorables, voilà. Et ça redémarre, redémarre bien. Donc on est voilà, il y a des pratiques féminines, il y a des disciplines féminines, et elles se développent.
Est-ce que vous faites la promotion au sein des collèges, des écoles ? Est-ce qu'ils viennent s'initier ou s'ouvrir au sport à travers votre club ?
Alors oui, par exemple, il y a un collège de Vanves là, qui est à peu près un petit quart d'heure à côté de notre trinquet, qui va venir faire des initiations courant mois de mai. Il y a un collège du 15e aussi, qui est juste à proximité de notre trinquet. On met en place des classes passerelles. On va mettre en place avec la Ligue, puisque je participe aussi à la Ligue d'Île-de-France, on va mettre en place des classes passerelles dans tous les établissements scolaires qui sont à proximité des installations sportives, donc dans le 16e, dans le 15e, dans le 13e, mais aussi dans d'autres communes. Donc on va essayer de mettre en place ces classes passerelles de manière à ce qu'effectivement, les enfants, alors c'est spécifique, ce sera les enfants qui sont en fin d'année d'école primaire, c'est-à-dire CM1, CM2 ou 6e, 5e, de pouvoir venir pratiquer le sport de façon totalement encadrée avec leur enseignant, mais aussi avec un éducateur dans les établissements, dans les infrastructures de pelote basque.
Parce que vous parliez du 13e, il y a un fronton et un club dans le 13e.
Il y a un fronton.
En préparant l'émission, j'ai appris ça.
Absolument, il y a un fronton dans le 13e. Il y a un fronton et un petit mur à gauche, qui est récent d'ailleurs, qui est tout neuf, qui a été installé par la mairie du 13e. Et donc, un club, donc c'est Paris 13, Paris Pelote 13, Pelote Basque.
Il est où, pour ceux qui habitent le 13e ?
Il est à côté de... c'est le complexe sportif qui se situe à proximité des Olympiades.
D'accord.
Voilà. D'accord. Qui est juste en face des Olympiades. Et bon, il y a d'autres disciplines. Il y a des terrains de foot, une piste d'athlétisme, mais il y a des tennis et il y a ces installations. Qui sont municipales. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Plus les installations sont municipales, mieux c'est, parce qu'effectivement, ça a un coût, entretenir ces installations, ces infrastructures. Et donc, voilà, on est très heureux des partenariats entre les mairies d'arrondissement, que ce soit la mairie du 16e ou celle du 13e ou celle du 15e, avec les présidences de clubs, mais aussi la mairie de Paris, qui nous accompagne dans le financement, évidemment, des frais de fonctionnement, des écoles de pelote. Voilà, tout ça tourne. Mmh.
Donc, ça fait combien de clubs sur Paris
et sur Paris, de France ? Alors, à Saint-Cloud, il y a... Paris, dans le 16e, quai Saint-Exupéry, il y a environ 4 clubs qui utilisent l'infrastructure. Après, il y a d'autres clubs en Île-de-France. Hein. Il y a un nouveau club à Lizy-sur-Ourcq, il y a des clubs à Asnières, il y a un club... voilà, bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais voilà. Ouais. Mais sur Paris, on est 6 clubs.
Et le principal, c'est près du Parc des Princes, ça va dans le 16e, là.
Ouais, la grosse installation municipale, effectivement, c'est une installation qui appartient à la mairie de Paris, qui l'a posée en gestion à une société qui s'appelle Trinquet Village. Et voilà, il y a plusieurs clubs qui utilisent cette installation. C'est un gros site festif hein, que tout le monde connaît bien. Hein. Beaucoup les étudiants connaissent bien ce lieu. Et d'ici mois de septembre, donc au mois de septembre, c'est l'occasion. J'en profite pour faire un petit peu quelques annonces. Mais dans la dernière semaine de septembre, du 26 au 30. Du 22 pardon, au 30, au 30 septembre, il y aura la Ligue des Nations de pelote basque en Trinquet, où nous aurons tous les pays du monde, donc les meilleurs joueurs du monde qui vont venir, qui joueront donc dans le 16e et chez nous dans le 15e.
D'accord.
Sur les deux Trinquets.
Il faudra venir nous en parler.
Ah ben, bien sûr, évidemment.
Nous, on fera des jeux, mais enfin bon.
Avec plaisir, et on vous invite évidemment à venir. Participer, assister à cette compétition qui sera qualificative pour les championnats du monde qui auront lieu en Argentine. Donc c'est vraiment une compétition sportive essentielle parce que pour les fédérations internationales, si elles veulent que leurs joueurs soient qualifiés pour les championnats du monde en 2026, elles sont obligées de participer à cet événement. Donc on est très heureux de pouvoir accueillir cet événement. C'est une première pour notre club. Et on est très heureux de ça.
Alors, on parlait des Jeux Olympiques. Votre sport, il a été sport olympique en 1900. Hein, et après, sport de démonstration, hein, c'est ça ?
Oui, il a été sport...
En 92, même,
voilà,
à Barcelone.
À Barcelone, oui. Absolument, absolument. On ferraille toujours pour le faire revenir...
Et Mexico, j'avais lu aussi, 68.
Ouais. Oui, le Mexique est un pays qui est vraiment très, très ouvert à la pelote basque. Au Mexique, la pelote basque est vraiment un des sports nationaux majeurs. Ce qui n'est pas le cas en France, c'est encore un sport régional, on va dire, même s'il y a une pratique sportive à Paris. On est à 15 000, 16 000 licenciés en France, donc ce n'est pas non plus la fédération de football autre, hein, évidemment. Ouais. Néanmoins, voilà, on se développe et je trouve que c'est un sport qui mérite. Il y a à peu près plus de 40 pays qui pratiquent la pelote basque. Donc... on n'est pas tout à fait aux critères qu'il faut pour être au JO, mais, mais ça va venir.
Oui, ce sera ça. Hein,
ça va venir. Il y a une grosse discipline qui se développe, qui s'appelle le frontball, et qui est en gros la main nue sur un petit mur. Quoi,
on va en parler, parce que la particularité de votre sport, c'est d'avoir plusieurs petites disciplines.
Exactement.
Hein.
Ouais, exactement.
On va en parler. Ouais. Vanessa, tu voulais poser une question ?
Oui, je me demandais pourquoi cet engouement au Mexique pour la pelote basque, justement ?
Bah, parce que
c'est un sport du Sud.
Voilà. C'est un sport,
bien sûr,
oui. Alors, c'est un sport.
De là, aller jusqu'en Amérique latine.
Oui, c'est un sport qui s'est beaucoup développé en Amérique du Sud, dans des infrastructures qui sont découvertes, parce qu'il fait très beau là-bas, donc qui nécessitent finalement peu d'investissement. Donc, les infrastructures coûtent pas cher, finalement, pour éduquer la masse à ces pratiques sportives. Et puis, c'est un sport hispanique. Hein. C'est un sport français, mais aussi hispanique. Quoi.
Qui a du coup été importé par les colons espagnols.
Exactement.
Et puis une autre question.
Les Argentins aussi, oui.
Les Argentins, voilà.
Oui, bah oui, évidemment.
En fait, il y a une compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse compétition internationale de sport qui s'appelle les sports sud-américains, qui est de niveau pas des JO, mais presque, où il y a tous les pays sud-américains. Et la pelote basque est une des disciplines là-bas.
D'accord.
Ce qui fait que la pelote basque est télévisée dans tous ces pays-là et bénéficie finalement d'un rayonnement qui est bien supérieur à celui qu'il a au Pays basque lui-même.
Voilà. Oui, parce que télévisé, il n'y en a pas eu beaucoup. Bien que je me souviens que Jean-Michel Arquel a eu la chance de le commenter.
Ouais,
début de journaliste.
Ouais. Mais ça ne nous rajeunit pas, tout ça.
Non.
Néanmoins, aujourd'hui, quand même, les championnats du monde, les derniers qui ont eu lieu en France, c'était à Biarritz. Ouais. Et ils ont été captés, ils ont été diffusés en live par France 3.
Régional,
Aquitaine, voilà. Mm-hmm. Et diffusés sur le web, évidemment, sur la totalité des compétitions.
Et j'allais vous demander, justement, c'est qui les leaders de la discipline aujourd'hui, ou du moins le trio de leaders en termes de pays, de nations ?
Bah, on va retrouver le Mexique, j'en donnerai quatre, oui. L'Argentine, le Mexique, l'Espagne et la France.
Alors bon, on va mieux découvrir ce sport hein, à travers ses différentes spécificités, mais d'abord on appelle des pelotaris, hein, c'est ça.
Absolument.
Les joueurs. Est-ce qu'on peut en vivre? Justement, on parlait du haut niveau, est-ce qu'on peut carrément en vivre?
Alors il y a...
Être professionnel, quoi, ne faire que ça.
Il y a plusieurs disciplines qui sont pratiquées de façon professionnelle. En Espagne, il y a ce qu'on appelle la main nue, oui. Sur des frontons mur à gauche. C'est très difficile, c'est un sport qui est vraiment assez hard. Et effectivement, là-bas, c'est télévisé par Escual Televista. Et il y a des pratiques, ce sont vraiment des pratiques professionnelles avec des championnats professionnels. En France, il y a le championnat en trinqué de main nue. D'ailleurs, il y a eu des parties l'an dernier à Paris, au trinqué du 16e arrondissement, qui s'appelle, il faut que je donne son nom quand même, c'est le fronton Chiquito des Cambos.
Ouais, ouais, forcément. C'est tellement beau, Chiquito des Cambos.
Exactement. Ouais. Et ça va revenir. Hein. Il y aura de nouvelles compétitions professionnelles à main nue. Le sport de main nue est le sport qui m'a amené à la pelote basque, puisque mon père pratiquait la main nue. C'est vraiment un sport, c'est le sport culturel basque par excellence, quoi, celui-là.
Oui, parce que quand on fait la pelote basque, c'est quoi? On fait de la main nue, on fait... Alors, j'ai vu qu'il y avait du zar, il y a de la chistera, de la paleta, la palacunta, voilà, la front tennis, la cesta punta.
Oui, alors cesta punta, c'est la troisième robot. Discipline qui a eu un vécu professionnel. Dans l'histoire, notamment dans les 30 dernières années, c'était vraiment une discipline professionnelle qui existait aux États-Unis et en Italie. Et puis, ça s'est éteint pour des raisons de conflit entre les gestionnaires du sport, puisque là-bas, toute organisation professionnelle est privée hein, aux États-Unis. Donc, il y a eu un conflit entre les joueurs et puis les organisateurs. Et finalement, tout ça s'est éteint au grand détriment finalement de la pelote elle-même. Mais effectivement, la cesta punta est un sport assez spectaculaire, qui est très télégénique et qui, finalement, quand c'est bien joué, qu'il y a peu de fautes, vraiment passe très bien à la télé. Ça fait des compétitions exceptionnelles. Quoi.
Mais alors, on est obligé de se spécialiser quand on fait de la pelote basque? Quand on prend une licence, on est obligé de commencer à choisir sa discipline? On peut passer d'une à l'autre?
En fait, la force de la pelote basque, c'est d'avoir plusieurs disciplines. C'est un peu comme l'athlétisme. Hein.
Oui, mais enfin, si on fait du 100 mètres, on ne peut pas... du 800 ou du 1500 quand même.
Non, mais on peut faire de la longueur, regardez. Oui, faire du 200.
Éventuellement, oui. Ça, c'est les mêmes types.
Et donc, il y a des disciplines qui se rapprochent, effectivement. Ouais. Donc, un joueur peut jouer, par exemple, à charret, à paleta.
Ouais,
il peut jouer à paleta cuir. Par contre, ce n'est pas le même joueur qui va jouer à chistera ou qui va jouer à cesta punta, puisque ce n'est pas du tout le même instrument.
Alors, c'est ça. Alors, il faut dire que tout ça, ce sont des instruments. Hein. Chistera, cesta punta, voilà.
Le chistera, c'est le gant en osier, grand gant en osier. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi une discipline qui s'appelle le petit gant, qui est un petit gant en chistera, en osier aussi, mais... Et finalement, qui pratique. Enfin, c'est pas du tout la même technique non plus. Voilà, tout ça, ce sont des résultats de pratiques sportives un petit peu pas ancestrales, mais presque.
Donc ça, on peut passer d'une à l'autre, c'est
pas
un problème.
Oui, bien sûr, il y a aucun problème. Ouais. Quand on est licencié à la Fédération de pelote basque, on peut pratiquer toutes les disciplines.
D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a un classement individuel, type golf ou tennis?
Non, il n'y a pas ça. Alors, ça se fait de façon tacite, plus ou moins, mais non, il n'y a pas ça. Ce n'est pas organisé. En tout cas, la fédération n'est pas organisée comme ça.
Et les compétitions individuelles, par équipe, mixtes?
Alors, il y a les deux. Il y a des compétitions individuelles. Main nue, par exemple, en trinqué, c'est individuel ou 2-2.
D'accord. Voilà.
À Paleta, dans la pratique baline argentine telle que nous on le pratique dans le 15e, c'est 2-2 aussi.
Donc il faut bien se connaître, il faut bien choisir son partenaire ou sa partenaire.
Exactement.
C'est comme le patinage ou le double tennis, hein, c'est pareil.
Exactement, c'est un sport qui se pratique à deux et la tactique se concrétise à deux. Toute stratégie, c'est une stratégie à deux. Si on joue tout seul, avec un partenaire, mais que finalement on joue tout seul quand on prend ses décisions, eh bien finalement on n'est pas optimal dans sa pratique sportive. Donc c'est un jeu où il faut apprendre à se connaître ses défauts, ses avantages, ceux de son partenaire, et jouer avec tout ça, quoi.
Alors fronton, bon, c'est ce qu'on voit régulièrement au Pays Basque, mur à gauche, mur à droite, pour les non-initiés.
Bah, c'est un fronton, c'est un fronton avec un mur sur la gauche,
ouais.
Voilà, et ça oblige quasiment à jouer le long du mur de gauche. En fait, la pratique sportive montre que et ça oblige à être très très bon de la gauche. Ouais. Ce qui veut dire que la pelote basque est un sport d'ambidextre. C'est pas un sport où on pratique d'un seul main ou où on pratique le revers. Vraiment, pour être optimal dans sa pratique sportive, il faut être ambidextre.
Ouais.
Et très très jeune, on apprend à l'école de pelote et à jouer des deux mains. Donc le cerveau se développe des deux côtés, hein, si je veux dire. Et ça, c'est une pratique plutôt intéressante sur le plan pédagogique, hein, voilà, par rapport à d'autres disciplines sportives. Donc le mur à gauche, j'en ai parlé. Le trinquet.
Oui, alors le trinquet, c'est l'intérieur.
C'est fermé, ouais, voilà, c'est fermé, ouais. C'est couvert.
Ouais.
C'est une espèce de bassine, quoi, fermée, avec un mur de face. On pratique toujours contre un mur de face, à deux contre deux, mais tous les murs autour sont utilisables. Et c'est pas voilà et donc ça évidemment ça va beaucoup plus vite.
Oui.
C'est un jeu de vitesse.
Il paraît qu'il y a des jeux à 300 km/h.
Ouah,
chez les très grands champions.
Oui, bah c'est à Cesta Punta hein, que
ouais, c'est, ça.
C'est à Cesta où les pelotes partent à ces vitesses-là parce qu'il y a un bras de levier avec le gant en osier qui permet d'atteindre des vitesses bien supérieures quoi.
Voilà. Alors les règles c'est quoi? Donc, la balle deux fois qui rebondit, c'est ça?
Ah bah,
on faut la rattraper.
On joue contre un mur de face, généralement, et on a droit à un seul rebond.
D'accord.
Voilà. Donc, il n'y a pas de deux rebonds. On peut jouer à la volée, mais on a droit à un seul rebond. Voilà.
Et après, le décompte des points, c'est quoi?
Bah, ça dépend des disciplines.
Oui.
Des disciplines qui se comptent en 7 de 15 points. Et quand il y a 2 sets gagnants, bah, c'est terminé. S'il faut un troisième set, le troisième set joue en 10 points. Ça, c'est dans la plupart des disciplines de trinquet. Sinon, ça se joue dans les frontons, ça se joue en 40 ou 50 points selon les spécialités et les disciplines.
Ouais, donc il y a des matchs qui peuvent durer très très
longtemps.
Ah
oui, hein. Oui. Et sur un fronton, quand il fait chaud,
oui, en plus.
C'est une partie en 40 ou 50 points, c'est une vraie épreuve physique.
Il y a des points communs avec un sport dont on a parlé, le squash aussi, finalement.
Oui, alors le squash se joue du revers, hein, spécifiquement.
Oui, 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 oui.
Effectivement, c'est une pratique de 1 contre 1. On pratique. À la pelote basque, on a souvent joué aussi un petit peu au squash.
Oui,
fait, on ne passe jamais complètement au squash. Voilà. On reste à la pelote. Pourquoi? Parce que la pratique est plus ludique. Hein. Après, c'est un petit peu moins physique que le squash. Le squash, vous faites du cardio très rapide. Hein. Là, vous montez à 160-170 battements minutes.
Ah bah dans le sport aussi, quand même, on monte pas mal.
Oui, hein, oui, mais à la pelote basque, vous êtes un petit peu en dessous. Vous êtes un petit peu en dessous. C'est ce qui fait qu'on peut la pratiquer plus longtemps aussi. Ça joue, hein, ce phénomène.
Oui.
Donc, l'enjeu à la pelote basque, c'est moins sur le physique que sur les stratégies, la complétude de l'équipe et puis les subtilités du trinquet quand vous jouez en trinquet et comment vous allez pouvoir mettre les balles dans le filet, les pelotes dans le filet ou faire des deux murs ou faire des lâchers. Voilà, il y a un peu plus la palette est un peu plus large de coups à réaliser que au squash.
Et il y a un profil type?
Oh, aucun.
Il vaut mieux être grand et lancer
un
petit peu râpé.
Si on
fait 90 kilos, on peut...
Absolument. Il y a de très, très bons joueurs.
Ouais.
Vraiment. Là, pour le coup, il n'y a pas d'exigence physique initiale. Vous pouvez pratiquer la pelote et être un très, très bon joueur, quel que soit votre physique. Bon, il faut du cardio un peu.
Oui, bien sûr. Voilà.
C'est un sport. Hein,
ouais. Alors, vous, vos créneaux, ils fonctionnent toute la semaine. Loisirs ou compétition, on vient?
Absolument.
Ouais.
Absolument. Nous, on pratique. On a l'avantage de pratiquer par niveau. Donc, on organise les soirées par niveau de jeu. Et effectivement, les joueurs, lorsqu'ils sont disponibles, viennent le soir sur les créneaux de leur niveau de jeu. Et donc, vu le nombre, eh bien, il y en a toujours une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine qui sont là le soir et qui échangent, qui tournent entre eux. Donc, tous les soirs sont pris. La journée, on a des créneaux aussi de joueurs. L'école de pelote le mercredi, école d'adultes le samedi matin, compétition le samedi après-midi et le dimanche. Oui, c'est le trinquet est vraiment utilisé à plein.
Oui, alors, j'ai retrouvé le trinquet, le fronton. Du 13e, c'est Avenue Edison.
Voilà. Avenue Edison. Hein, ouais.
Stade voilà, Charles Moureux.
Voilà, c'est Charles,
ça.
Exactement.
Voilà, j'ai retrouvé.
Complexe là. Sportif, ouais. Charles Moureux. Exactement.
Mm-hmm. Ouais, je l'avais noté, mais Charles.
Ouais.
Un grand complexe.
Ah ouais,
oui,
ouais.
Très grand. D'ailleurs.
Ah, absolument.
Ah bah, tu vois, c'est pas moi qui ai
bien
fait les deux.
Un très beau complexe sportif.
C'est un sport qui est cher. D'abord, le prix de la licence et de la cotisation chez vous, c'est de combien?
Alors, nous, on pratique. Nous, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a une cotisation qui est assez élevée, mais parce qu'on utilise une infrastructure souvent. On peut utiliser l'infrastructure souvent. Alors, on ne loue pas un créneau d'une heure, on ne pratique pas juste une heure dans la semaine. Quand on adhère au club, on rentre au club, je le dis, c'est l'esprit socios.
Oui.
On adhère au club et on a ces créneaux du soir. Et après, quand les créneaux sont disponibles, on peut jouer n'importe quand. Il suffit de se monter les parties et on a accès au trinquet et on joue n'importe quand. Donc effectivement, c'est une pratique qui... on a une licence annuelle, une cotisation annuelle qui coûte 1350 euros.
Ouais.
Ça fait un peu plus de 100 euros par mois.
Ouais, ouais, ouais.
Ce qui, à Paris, n'est pas non plus...
Oui. Loisirs, compétition.
Les deux, hein. Tout est inclus.
Oui, oui, oui. Parce que des fois, il y a des sports où on rajoute quand on
va à la compétition.
Hein.
Non, tout est inclus, tout est inclus dedans. Mm-hmm. Alors après, on fait des prix pour les féminines, on fait des prix pour les jeunes, on fait des prix pour l'école l'école de pelote, voilà, moins de 30 ans, enfin, voilà. Donc ça permet d'avoir une mixité dans les pratiques sportives et les pratiques aussi, et puis les moyens, hein, ceux qui ont les moyens ou ceux qui en ont pas. Et à Paris, il y a de tout, hein, donc il faut pouvoir être accessible, y compris pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est ce qui fait qu'il y a à peu près la moitié de Basques et à peu près la moitié de non-Basques, globalement, qui pratiquent cette partie.
Et c'est un sport qui est cher au niveau de l'équipement, parce qu'il faut tous les accessoires quand même.
Non, une
pala. On les trouve facilement ?
Une pala, oui, il n'y a aucun problème.
Il y a des magasins spécialisés
Non, mais on fournit
ah,
ça.
Oui,
on fournit des palas, des pelotes, ça, on...
Parce que c'est quand même un matériel qui a dû beaucoup évoluer quand
même. Oui, on est passé des palétones. Notre pratique sportive, on est passé du palétone en bois, qui était ce qu'on appelait la raquette argentine, en carbone. Maintenant, les raquettes en carbone, qui sont 10 fois plus résistantes, évidemment, et qui ne perdent pas leur élasticité, leur impact, leur capacité d'impact. La matière bouge beaucoup moins que le bois.
Donc ça va plus vite quand même.
Ça va plus vite.
Elle est beaucoup plus légère, j'imagine aussi.
Non, elle n'est pas plus légère. C'est volontaire.
D'accord.
C'est pour pas changer le poids. Donc les palétones en carbone qui sont homologués sont à peu près du même poids que les palétones en bois. Mais par contre, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Quoi. Ça va beaucoup
Et puis, je suppose qu'il y a une tenue aussi réglementaire, non?
Alors, pour l'entraînement, non.
Non,
chacun fait ce qu'il veut.
Ouais.
Mais en compétition, oui, on doit être en tenue blanche. Donc pantalon.
Pas fluo, on n'a pas droit.
Ah non, non.
Ah,
non, non, c'est pantalon blanc, chaussures blanches.
Comme le tennis il y a une trentaine d'années.
Oui, c'est ça. Mais on n'a pas perdu ça. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire appliquer la règle. Il faut bien le reconnaître. Mais ces pantalons blancs qu'on trouve facilement, c'est pas un problème. Mais et puis ensuite, évidemment, il y a un polo du club.
Oui, du club.
Qui peut être d'une autre couleur que
le blanc. C'est quoi vos couleurs, vous?
Nous, on a le bleu, le blanc et le noir.
Voilà. D'accord, bleu, blanc, noir.
Voilà. Mmh.
Est-ce qu'il y a une histoire au niveau justement de l'importance de la couleur du blanc pour les tenues?
Non, pas vraiment.
Ok.
Pas vraiment.
Ouais.
Pas vraiment.
Ouais.
Je pense que c'était plutôt la pratique pour pouvoir nettoyer et mettre ça à bouillir que c'était ça la raison principale.
Okay.
Aujourd'hui les polos tiennent bien avec les couleurs, hein, et donc ça pose pas de problème. Hein. Enfin, dans tous les sports, c'est comme ça. Hein.
Et puis, il y a aussi des casques ou des lunettes?
Alors, oui.
C'est obligatoire, ça?
Alors, les lunettes sont obligatoires dans notre pratique sportive pour protéger les yeux, puisque la pelote à baline est une pelote qui a à peu près la taille de l'orbite de l'œil, donc il y a eu des accidents. Hein, donc c'est pas par hasard si maintenant on est obligé de porter des lunettes. Et il y a des pratiques sportives comme la palette à cuir ou la cesta punta qui se jouent avec des casques. Mm-hmm. Parce que là, une pelote, comme vous disiez, qui part à 300 km/h, c'est une pelote qui est à peu près comme une balle de tennis,
Plus dur,
en
quoi.
Cuir et dur. Et à 300 km/h, ça tue quelqu'un. Hein. Donc, c'est obligatoire, le casque dans ces pratiques-là.
Bon, il n'y a pas d'accident quand même dans votre sport. Ça reste quand même très, très rare.
Il y a des accidents.
Il y en a.
Oui, on est vigilant à ça. Parce que, d'abord, y a des accidents parce que, comme dans toutes les pratiques sportives, il y a des défauts physiques.
Le risque zéro n'existe pas.
Il y a des défauts physiques, hein, y a qui ont des petits problèmes de cœur. Donc, ça peut arriver. Et puis, il y a des pelotes. Hein, des pelotes qui touchent la tête, ça peut devenir un problème. Mm-hmm. Pas dans notre, pas à Baline, parce que l'impact n'est pas... On s'y fait relativement bien, la douleur n'est pas trop forte, mais il y a des pratiques où les pelotes sont dures et où la pelote va vite, vraiment. Si on la touche dans le cou, dans la tête, ça peut avoir un problème, un vrai problème physique. Quoi.
Alors, avant d'envoyer la pause musicale, comment il est le public ? Très enthousiaste, je suppose. Il est derrière des vitres ?
Non.
Chez nous aussi
Non, chez nous, c'est pas... je vous invite à venir.
Oui, oui, moi. On viendra avec toute l'équipe. Darius avec sa caméra.
Avec plaisir. Alors, dans le 15e, nous, on a défilé sur le côté du mur de gauche qui permettent finalement, à la pelote de rester dans la... Même si elle est faute quand ça touche le filet, il se trouve qu'elle reste dans l'enceinte. Après, on a des tribunes sur la partie arrière du trinquet où là, il y a beaucoup moins de risques, évidemment. Et donc là, il n'y a pas de contraintes particulières. Ça permet de voir beaucoup mieux la partie de pelote. Néanmoins, à Chiquito des Cambos, au trinquet, c'est un trinquet moderne, hein, en verre, avec parois en verre. Et effectivement, les tribunes qui sont sur le côté droit du trinquet ont accès en visuel à travers une paroi en verre complète. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait aussi que... ça a permis ce modernisme dans les infrastructures de pelote basque à travers la paroi de droite et la paroi du fond, arrière, fait que c'est beaucoup plus facile à filmer et à rendre pertinent pour un téléspectateur. Quoi.
Bien sûr. Allez, je vous propose de rester avec nous, naturellement. Il y a encore tout plein de choses à aborder dans cette émission. On va écouter la petite pause musicale et ensuite on va enchaîner. Alors, j'ai pas le titre en tête, c'est pas bien grave, on écoute la musique. We'll be right back. Voilà, c'était Abba, Dancing Queen. Hein. Ça ne nous rajeunit pas, Jean-Luc, non, ça aussi. Hein. Voilà. Allez, on va parler maintenant eh bien, des infos sport hors foot hein, avec Darius, donc le journal des sports. Hein. Cette fois-ci, on ne va pas le zapper et on s'en excuse encore auprès de, donc, d'Alexandre la semaine dernière. On va commencer avec le basket. On a une bonne nouvelle, Darius. Le Paris Basket est champion d'Europe, sixième club français à remporter une Coupe d'Europe de basket.
Oui, tout à fait. Donc vendredi, ouais. Paris a été sacré champion de l'Eurocup face à Armand-en-Bresse, donc dans une finale 100% française. Après sa victoire en match aller, donc 77-64, Paris a fait la doublette et a remporté le match retour. Donc le jeune club parisien a continué sur sa très belle lancée de 2 mois et demi sans défaite. Ils avaient déjà impressionné en demi-finale donc, contre les Lions de Londres. Et c'est TJ Shorts qui finit meilleur marqueur de la rencontre. Le meneur américain a fait un très bon match avec 22 points, 6 rebonds et 5 passes.
Ouais, ils ont joué à Carpentier très longtemps. Ils sont à l'Adidas Arena depuis,
oui, ils
depuis
viennent de
peu de temps.
La,
c'est bien.
Arena, ah, ouais, ouais. Le mois dernier. Ouais.
Par contre, moins de chance pour les filles de Villeneuve-d'Ascq.
Oui, totalement. Donc, les joueuses de Villeneuve-d'Ascq qui se sont fait écraser malheureusement en finale de l'Euroleague par les championnes en titre, donc du Fenerbahçe. Elles ont perdu 106-73. Elles étaient menées qu'un point à la fin du premier quart-temps, donc 28-27. Mais elles n'ont pas su inverser la tendance malheureusement. Et elles se sont fait blowout en deuxième mi-temps.
Ouais, alors on va rappeler que le basket, c'est quand même le sport le plus titré au niveau des clubs, que ce soit homme ou femme. Un sport qui est le plus titré au niveau de l'équipe nationale, c'est le hand. Donc on en vient avec les résultats du PSG notamment.
Oui, donc le PSG a gagné contre Saint-Raphaël 37-29. Ils ont su se rattraper donc de leur défaite de la semaine dernière face à Nantes, leur première défaite de la saison. Nicolas Karabatic, qui fête ses 40 ans jeudi, il a inscrit 3 buts en 12 minutes passées sur le terrain, ce qui est quand même assez impressionnant à son âge.
Bien sûr. Et les autres clubs, Ivry, Créteil, non?
Et donc, Ivry, malheureusement, a perdu à Aix-en-Provence à un seul point d'écart. Donc, le score final 38-37. Et Créteil s'est vu perdre face à Nantes, donc sur le parquet breton. Score final 38-31.
Très bien. Un sport que Jean-Luc aime bien, le ballon ovale, le rugby. Deux clubs français, hein, encore en lice en Coupe d'Europe, Toulouse et puis Clermont. Ouais. Voilà.
Ouais. Oui, donc Toulouse a explosé à Exeter ce week-end en quart de finale donc, de la Champions Cup sur le score de 64-26. Ils étaient légèrement bousculés en première mi-temps et ils ont inscrit 47 points après la pause. Ouais. De quoi tuer vraiment tout suspense que réservait la rencontre. Mais aussi, il faudrait parler de La Rochelle qui s'est battre par Leinster 40-13. Voilà, c'est les doubles champions en titre et malheureusement, là, ils voient leur aventure se finir en quart de finale.
Voilà, et puis Clermont qui reste dans l'autre coupe, qui est le challenge européen, qui est un petit peu l'équivalent de la Ligue Europa pour le foot. Alors, il y a le tennis aussi, avec enfin Tsitsipas qui a gagné à Monte-Carlo.
Tout à fait, Monte-Carlo, Tsitsipas a donc gagné contre Casper Ruud en finale, une victoire bien maîtrisée en 2-7, 6-1, 6-4. Ruud qui avait éliminé Novak Djokovic en demi-finale. Il n'a pas su refaire la même contre Tsitsipas. C'est la troisième victoire de Tsitsipas à Monte-Carlo. Il l'a qualifié comme sa sainte trinité. Il rentre dans le club exclusif des 5 joueurs à avoir 3 victoires ou plus dans ce tournoi, dont un de ses joueurs est Nadal. C'est son premier titre depuis 8 mois au Grec. C'est un sacre quand même très important. Mais ce n'est pas que pour le titre que c'est important, mais aussi pour le jeu qu'il a proposé. Lui-même dit, je dirais probablement que cette semaine a été la meilleure comparée à mes 2 victoires précédentes en termes de niveau.
Donc ça nous promet un beau Roland-Garros. Allez, on prend la direction des Amériques pour le Grand Prix Moto.
Oui, donc au terme d'une course magnifique, Maverick Vinales s'est imposé dimanche à Austin. Sa première victoire depuis le Qatar en mars 2021. Le pilote Aprilia a devancé le rookie Pedro Acosta, donc de KTM GasGas. Et Marc Marquez de Ducati Gassini a chuté alors qu'il était en tête, malheureusement. Et Fabio Quartararo de Yamaha a pris la deuxième place.
Ouais, le français, ouais. Allez, on finit avec l'Amstel Gold Race cycliste et la victoire d'un Anglais, Pidcock.
Oui, donc c'était la 58e édition de l'Amstel Gold Race. Il n'y aura pas de triplé malheureusement pour Mathieu Van Der Poel. Le Néerlandais, grand favori, a été surclassé pour la dernière course. Donc c'est Tom Pidcock qui remporte cette édition malgré une bonne tentative de remontée pour des Français au dernier tour.
Oui, il avait fait le doublé, donc Van Der Poel, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Alors avant de parler du MMA, on va enchaîner sur l'info olympique, badminton et puis les dernières nouveautés olympiques avec Vanessa.
Tout à fait. Ce matin, Emmanuel Macron était invité le président de la République, bien entendu, était invité sur le plateau de BFM TV et RMC. Il a parlé donc des Jeux Olympiques en parlant d'un plan B et d'un plan C en cas de menace très importante. Donc un plan B qui serait au Trocadéro et puis un plan C au Stade de France. Bien sûr, on espère que tout se déroulera au mieux et qu'on aura la cérémonie sur la scène. Il a également parlé de l'importance pour l'héritage et puis il vise top 5 pour les Jeux Olympiques, top 8 pour les Paralympiques. Et il a également admis qu'on avait un retard sur la France en tant que nation sportive, mais que évidemment l'objectif de ces Jeux, c'est aussi ça, c'est aussi de faire de la France réellement une nation sportive en continuité avec les programmes gouvernementaux qui ont déjà été mis en place. Et c'était voilà, il a développé différents thèmes par rapport aux Jeux Olympiques face aux journalistes de RFM, BFM TV et RMC.
Ouais, alors cette semaine, on va être à J-100.
Hein, exactement. Et demain,
j'étais à la conférence de presse donc la semaine dernière. On en reparlera donc la semaine prochaine. Et justement, demain, c'est la flamme olympique.
Demain, c'est la flamme olympique
en Grèce.
En Grèce, à Olympie, en présence de Tony Estanguet, de Thomas Bach, le président du CIO, ainsi que de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc rendez-vous à Olympie. Une autre info, puisque mercredi, 250 000 nouveaux billets seront mis en vente dès 10h donc sur le site des Jeux.
Ouais. Tony Estanguet, on a parlé mercredi dans sa conf de presse, et il y a aussi beaucoup de billets pour le foot. Ouais.
Exactement, tout à fait. Absolument.
Et puis, on connaît qui va porter la flamme, qui va commencer avec la flamme depuis Olympie. C'est une championne française de
grand
renom.
Laure Manaudouf, notre grande championne de natation. Notre grande championne de natation qui sera porteuse de la flamme, tout à fait.
Ouais, ça va être un grand moment qu'on va vivre sur Paris. Cet été, quelques infos aussi sur badminton pour prolonger un petit peu.
Sur badminton, de l'or et de l'argent.
Oui,
deux premières historiques, Tom Jiquel et Delphine Delru en double mixte, qui sont devenus champions d'Europe pour la première fois. C'est les premiers Français à devenir champions d'Europe face à la paire Beaujeu-Christiansen. Un deuxième titre de champion d'Europe pour le double dames avec Anne Lambert et Margot Tran face aux Bulgares, les sœurs Stoeva, qui sont triple championnes d'Europe. Et puis Thomas Junior Popov, qui est vice-champion d'Europe et qui avait battu tout de même le numéro 1 mondial Victor Axelsen avant de s'incliner face à un autre de ses compatriotes danois, Andersen. Et puis aussi un petit mot sur les frères Popov qui, eux, ont été battus par des Danois et qui donc ne pourront pas aller au jeu. Mais ça fait le bonheur, entre guillemets, de Ronan Labarre et Lucas Corvée qui ont décroché leur ticket pour les Jeux.
Très bien. Benoît, si je te dis Alex Pereira et Max Holloway.
Moi, ça me dit beaucoup de spectacles.
Ça pour enchaîner, ça.
De spectacles. Franchement, on a été servi, j'ai envie de te dire, ce week-end. On a eu l'une des plus belles cartes que l'UFC a pu proposer. Donc, du coup, organisation de MMA à l'international. Et là, actuellement, du coup, c'était magnifique parce que c'est comme si on avait en une soirée plusieurs finales de Champions League à la fois.
Ah ouais,
C'était incroyable. Donc,
j'ai lu que c'était l'UFC 3000, c'est ça?
Non, 300 plutôt.
300,
UFC 300, c'est un peu chiant avec leurs appellations.
Ouais, j'avoue que
300, 400, c'est un peu chiant.
Ouais.
Mais grosso modo, on a eu du coup chez les poids lourds une victoire au premier round par KO de Alex Pereira.
C'est un Brésilien, c'est ça?
C'est un Brésilien d'ailleurs. Il est connu pour avoir un crochet du gauche assez dévastateur. Ça n'a pas manqué. Il a mis KO son adversaire au premier round.
Qui était Hill, l'Américain. Hein.
Exactement, Hill, l'Américain, qui avait prédit qu'il l'aurait battu et qu'en plus de ça, il prétendait ne pas s'inquiéter du pied-point d'Alex Pereira. Il a eu tort. Ouais. Pour le coup, il a été mis KO.
Il n'y a pas un peu de bluff au début comme ça?
Il l'a mis KO juste après, en plus, avoir reçu un coup illégal dans les parties.
C'est ça, c'était vraiment incroyable, parce que même en termes de divertissement, on a quand même la scène où Alex Pereira met un stop à l'arbitre en disant « Non, n'interromps pas le combat, je vais continuer. » Et 10 secondes après, le KO arrive.
D'accord.
Donc c'était assez fabuleux comme soirée, comme finish, surtout que c'était le final de la soirée, donc c'était merveilleux. Juste avant, on avait eu du coup... On a vu Justin Gaethje face à Max Holloway. Moi, je vous avoue que je m'attendais à une victoire de Justin Gaethje. Et au final, Max Holloway a géré son combat.
Je crois que c'est arrivé à la dernière seconde.
À la dernière seconde. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, le combat était totalement dominé par Max Holloway, mais vraiment sur tous les rounds. C'est un combat en 5 rounds. Il n'a pas eu aucun round de perdu. Donc vraiment, sa stratégie, la stratégie qu'il avait adoptée a été parfaite. Et à la fin, dans les dernières secondes, il fait signe à Justin Gaethje de rester au milieu du ring pour qu'il tous les deux se la donnent littéralement en fait. Hein,
sans... Il donne un peu une dernière chance à Gaethje
totalement
de peut-être revenir dans le combat.
C'est ça
et
en fait,
tout,
et de possiblement lui mettre un KO. Mais au final, non, à vraiment 2 secondes de la fin, Max Holloway lui lance un KO et ça ne démord pas. Justin Gaethje tombe et du coup, là, c'est une victoire par KO. D'ailleurs, il a eu un bonus pour ça. Mmh. Il a eu 300 000 $ de bonus.
Oui, il paraît qu'il y a eu de l'argent.
Ouais, 600 000
en tout. 600 000, c'est 300 000 pour la soirée et 300 000 de plus pour la victoire par KO. Et franchement, c'était un KO sublime, magnifique. Franchement, on ne voit ça que dans les films. Ouais. Donc, c'était impressionnant. Et ce qui était aussi intéressant dans cette carte, c'est que les autres combats étaient aussi intéressants. On a eu Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, qui est d'origine arménienne, et Charles Oliveira, qui est brésilien. On s'attendait à une victoire de Charles Oliveira, mais au final... Arman n'a pas menti, il a eu sa victoire et du coup je pense qu'il va peut-être prétendre à la ceinture prochainement face à soit Islam Makhachev ou Justine Poirier. Et enfin on a également chez les femmes, on a également la victoire de Wei Lizhang, l'actuelle championne déjà qui a conservé sa ceinture pas si facilement. Elle a quand même eu quelques difficultés au sein durant son combat, mais au final elle a conservé sa ceinture avec brio. Donc franchement très belle carte, super événement, c'était rien à dire et on attend la suite parce que du coup, ça offre d'autres possibilités.
Ce qui est fabuleux, c'est que chaque fois que tu viens, il y a des énormes combats, c'est ça? Et c'est le lendemain de gros combats.
Pour le coup, on va dire que cette année 2024, elle est assez chanceuse, on va dire, pour les fans de MMA. Et d'ailleurs, même sur l'aspect français, du coup, là, actuellement, on a eu quand même la victoire de Saladin Parnasse au KSW. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, il a décidé qu'il allait changer d'organisation. Donc, il y a plusieurs organisations qui se proposent à lui, l'UFC, le Bellator ou le PFL. Visiblement, dernières annonces, il souhaite aller au PFL. Il a clairement exprimé son souhait de gagner beaucoup d'argent, puisque le PFL, quand même, est une organisation qui rémunère bien ses combattants. Personnellement, je trouve que c'est un mauvais choix sur l'aspect sportif, qu'en fait, au PFL, il n'y a pas. Concrètement, si on veut se faire une belle carrière sportive, marquer les esprits, rentrer dans la légende du sport, du MMA, je pense qu'il faut aller à l'UFC. Après, c'est vrai que l'UFC, c'est contraignant parce que l'UFC est connu pour être une organisation qui ne rémunère pas forcément bien ses combattants. Et du coup, c'est un choix. Mais lorsqu'on fait partie des meilleurs combattants, là, on est bien rémunéré. Donc, c'est un risque à prendre. Mais malheureusement, si on veut rentrer dans l'histoire du MMA à l'international et avoir une grande carrière en tant que combattant,
c'est la plus importante. Quoi.
C'est clairement la plus importante. C'est clairement là qu'il faut aller.
Donc, c'est là où sont les meilleurs combattants.
Exactement, en plus. Ouais, donc, du coup, c'est surtout ça. C'est, du coup, d'où le fait que j'aurais aimé j'espère quand même qu'il va changer d'avis et aller à l'UFC. Sinon, on a malheureusement une défaite de Morgan Charrière à l'UFC également. C'est une défaite dommage pour lui, sachant que vraiment c'est également l'un des prodiges français qu'on attend avec impatience. Bon, ce n'est qu'une défaite, on pense qu'il a encore chance parce que c'est une défaite au point et ça a été très très serré au niveau du jugement des juges, donc on se dit encore qu'il a vraiment une possibilité toujours d'avancer à l'UFC. Et chez les femmes également, on a eu la victoire de Nora Cornell. Victor Parco contre Jocelyn Edwards et je tiens un petit rendre hommage à Nora Cornell puisqu'elle vient d'Épinay-sur-Seine et j'ai grandi à Épinay-sur-Seine. Ça m'a fait super plaisir personnellement.
Tu la connais pas, tu la connais?
Non, je la connais pas. D'accord. C'est possible que je l'ai rencontrée d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Mais je ne la connais pas. Mais en tout cas, je suis ravi de savoir qu'elle vient d'Épinay-sur-Seine comme moi. Donc c'est super. Franchement, bon petit. On va dire qu'on a eu, on a été de quoi servir sur l'aspect MMA ces dernières semaines. Oui.
Alors, c'est quoi les autres infos MMA dont ce mois est écoulé? Est-ce qu'il y a des gros combats qui arrivent?
Justement, il y a des gros combats qui arrivent. Il y a des gros combats qui arrivent. Là, clairement, déjà, une grosse annonce, l'annonce du futur combat de Conor McGregor.
Ah oui, le revoilà.
Il va revenir. Apparemment, Dana White a affirmé qu'il allait revenir. Donc, Dana White, qui est le président de l'UFC, a affirmé qu'il allait revenir contre Chandler. Le nom de l'adversaire, j'ai oublié.
Il va le retrouver, Darius, vous allez le retrouver. Et après, il y a d'autres grosses.
Il y a du coup Islam Makhachev, actuellement le champion titre des poids légers, qui actuellement va affronter
Michael Chandler.
Michael Chandler, qui va affronter Justin Poirier. Et potentiellement, l'adversaire du futur champion sera Arman, j'ai oublié le nom de famille, excusez-moi. Que j'avais cité plus tôt, qu'avait battu Charles Oliveira, sera possiblement leur adversaire. Donc ça, c'est intéressant. Et dernièrement, on a eu quand même le droit, enfin, du retour sur les réseaux sociaux de Cyril Gane, qui commence à envoyer des messages, parce que malheureusement, on avait l'impression qu'il allait disparaître. Et là, il a commencé à signifier qu'il souhaitait quand même affronter et qu'il comptait affronter certainement en septembre le champion, peut-être Thomas Spinal, s'il a la possibilité. Pour ma part, je pense que s'il continue à faire du trash talking, s'il continue à provoquer un peu, je pense que clairement Cyril Gane aura un combat. Et pour moi, personnellement, mon avis sur cette question, je pense que Cyril Gane, vraiment dans la catégorie, hormis John Jones, c'est lui qui a le niveau le plus complet et qui clairement peut prétendre au titre. Mmh. Encore faut-il qu'il arrive à avoir un combat.
Oui.
Donc voilà.
Ça fait combien de temps pour préparer les combats? On organise ça combien de temps avant? 6 mois, 8 mois avant?
Ouais, en boxe, un peu comme en boxe, quand
on décide d'un combat, ils se mettent d'accord et puis voilà.
C'est un peu comme en boxe, mais en général, quand même, c'est 6 mois. Mais après, ça dépend à quel niveau on se trouve. C'est-à-dire que si on enchaîne les victoires et qu'il y a une, par exemple, il y a un champion qui garde sa ceinture et que le combattant, imaginons, fait un run, ce qu'on appelle un run, commence à enchaîner les victoires. Là, on se dit que dans les prochains mois, il aura la possibilité d'affronter le champion. Donc effectivement, ça peut être dans 6 mois ou dans 1 an. Ça dépend si le combattant en titre a des combats ou pas. Mais par moment, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce qu'il suffit qu'un champion perde une ceinture et du coup, toutes les cartes sont rebattues. Ce qui est un peu de la difficulté au MMA, en fait, c'est que vraiment, on a vraiment l'impression que par moment, c'est un peu au hasard parce qu'on se dit que le champion va garder son titre pendant je ne sais combien de temps. Au final, un combattant arrive à lui prendre la ceinture. Ce combattant-là qui a pris la ceinture perd également. Donc du coup, à chaque fois, ça change. Et
c'est une belle école d'humilité.
C'est exactement.
Il n'y a jamais rien qui est acquis.
Exactement, exactement. Ouais. Ben, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, moi, je m'attendais à une victoire de Justin Gaethje. Au final, il a perdu. On se retrouve avec Max Holloway qui, au final, obtient la ceinture des BMF. Donc, de ce fait, ça change encore. On se dit quelqu'un d'autre peut avoir cette ceinture-là, quelqu'un d'autre peut prétendre à ce titre-là. Et c'est vraiment cet aspect d'incertitude qui plane constamment au niveau du MMA. C'est très difficile en final pour un combattant d'arriver à non seulement à rester invaincu et surtout à garder son titre. Mmh. Et lorsque des combattants arrivent à enchaîner, je ne sais pas, 10 défenses de titre, ben, rapidement ils rentrent dans la légende, quoi.
Ah oui, c'est sûr.
Ils rentrent dans la légende. On pense à Georges St-Pierre, on pense à Anderson Silva ou encore à Kumar Usman dernièrement qui allait également battre des records. Ça n'a pas été fait parce que à la dernière seconde, il a reçu un KO. Donc tout vraiment à chaque fois tout peut changer en fait. Donc,
moi ce qui me sidère c'est un peu le chaos, on s'en remet facilement parce que...
Ah pas du tout. Franchement personnellement je suis toujours en fait ça dépend. Il y a des chaos auxquels on peut s'en remettre, par exemple il y a des chaos parfois à la jambe, c'est-à-dire que on tape trop à la jambe, vous pouvez plus avancer, on considère que vous ne pouvez plus combattre, c'est un chaos. Mais par contre les chaos à la tête, c'est vrai que c'est très 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 compliqué et je pense notamment au high kick. Pour moi, les high kicks, c'est vraiment les KO lorsqu'on les prend. Je pense qu'il faut un minimum d'un an pour revenir dans la compétition. Parce qu'en général, les combattants qui, de ce que j'ai pu observer, de ce qu'on constate en général, les combattants qui prennent des KO à la tête en high kick, ils enchaînent ensuite les défaites. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont pris un KO à la tête, en général, ils prennent une ou deux défaites d'affilée, voire trois défaites d'affilée. Et lorsqu'ils arrêtent un peu, ils se donnent un petit un an. Bah, ils ont cette capacité à revenir plus facilement dans la compétition et potentiellement prétendre à des titres, etc. Donc moi, le KO, c'est très dangereux. Vaut mieux perdre au point qu'au KO, ça c'est sûr et certain. Vaut mieux également essayer de ramener gagner le gagnant en ayant moins reçu de coups. Mais les high kicks à la tête, c'est vrai que c'est les plus durs en fait.
Oui, parce qu'on parle des protocoles commotion dans le foot actuellement, mais dans des sports comme le MMA ou même le rugby, hein, on a de quoi s'interroger quand même. Hein.
Dès lors qu'il y a coup à la tête, c'est compliqué. Dès lors qu'il y a coup à la tête, c'est très compliqué. Et du coup, c'est pour ça que c'est des sports qui, malgré la violence, mettent l'accent énormément mettent énormément de règles, de limites dans les combats. Par exemple, lorsque quelqu'un est au sol, c'est interdit de lui envoyer des coups de pied à la tête, par exemple. Mmh. Ou les coups de genoux au sol, les coups de genoux également lorsqu'on est au sol également. Donc il y a plein de types d'interdits qui sont mis en place pour éviter que des problèmes, que des combattants en fait tout simplement ne se relèvent pas de leur des coups à la tête, parce que c'est déjà arrivé malheureusement en boxe et dans d'autres sports de combattants qui malheureusement décèdent après suite à leur blessure d'un combat. Et
ça va, les carrières ils terminent, c'est pas trop marqué.
Comment?
Quand les carrières terminent, ils sont pas trop marqués.
Ça dépend. Franchement, ça dépend. Oui.
C'est trop tôt pour voir encore.
C'est ça en fait. C'est sûr.
C'est un sport relativement.
En fait,
jeune,
en général, le plus sage, c'est lorsque les carrières s'arrêtent à l'âge de 36, 37.
Ouais.
C'est une bonne période pour s'arrêter. Après, lorsque ça va au-delà, Ouais. Après, bah, malheureusement, oui. On va
se rappelle,
pas se
ouais, on se rappelle dans un sport voisin, Mohamed Ali. Hein.
Oui. C'est ça, mais
ça
c'est pas. C'est
des traces. Hein,
ouais, ouais,
ça, ça, clairement, ça laisse des traces. Ah, ça, ouais. C'est, on peut pas ouais. En...
Jean-Luc, MMA, ça vous plaît ou vous, c'est plus la boxe hein. C'était plus,
Non, non, moi, je suis pas très fanat des sports
ouais.
De combat. Pour
Noblar,
toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons. Je crois que le sport, c'est un épanouissement personnel. Alors, je comprends très bien la pratique. Ça vient de loin aussi. C'est pas d'aujourd'hui. Donc. Mais je trouve que on a le sport doit nous permettre de nous perfectionner, peut-être d'atteindre, de dépasser ses limites à chaque fois, si c'est possible, tout en gardant une certaine intégrité du corps. Je crois que notre corps est précieux et on s'en aperçoit souvent dans la fin de sa vie, mais c'est souvent trop tard. Y a beaucoup de sportifs qui ont poussé la limite, les limites
ouais,
très très loin.
Dans tous les sports, le rugby,
le vélo,
le vélo, c'est pareil.
Ouais. C'est pareil. Hein, ouais, ouais. Et donc, à la fin de sa vie, on s'aperçoit que si on avait su, peut-être qu'on aurait été peut-être un petit peu moins exigeant avec soi-même pour essayer de durer plus longtemps. Quoi. En tout cas, en pleine possibilité de vivre complètement. Et je crois que ça, c'est important aussi.
Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du sport professionnel, c'est un peu inévitable, malheureusement, de faire un peu don de son corps. Quand on voit là, même par exemple les footballeurs arriver à un certain âge, voilà.
Varane en a parlé d'ailleurs. Hein.
C'est inévitable. Je pense que là, la compétition est si féroce qu'on est obligé de dépasser ses limites constamment, de s'entraîner au point de l'usure.
On le constate, hein, le sport professionnel, évidemment, c'est pas du tout la même pratique que le sport. Sport, culture, associatif.
Non, puis il faut le dire, les athlètes aujourd'hui sont de mieux en mieux préparés qu'il y a 20, 30 ans. Hein,
oui, aussi.
Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus physique. Il y a des calendriers beaucoup plus importants, ils sont mieux préparés aussi.
Ça peut compenser quand même. C'était exigeant, mais sans beaucoup de préparation. Aujourd'hui, la préparation fait qu'on peut amener son corps peut-être avec plus de sécurité à des niveaux importants. Néanmoins.
Pour votre sport,
c'est sûr que c'est pas sans risque.
Oui, c'est ça, en fait.
On voit chez les jeunes footballeurs, par exemple, il y en a après une saison à 70 matchs, ce qui est absolument énorme. Qui, au final, aujourd'hui, n'arrivent plus à taper dans le ballon alors qu'ils ont pas 25 ans.
Un sportif de haut niveau professionnel, sa principale qualité, c'est sa résistance. C'est pas forcément sa pratique exceptionnelle, c'est sa résistance.
Capacité à endurer cette cadence sportive super intense. Ouais. On peut prendre l'exemple de Floyd Mayweather qui, lui, justement, a rapidement compris ça. Compris que s'il voulait continuer à performer dans son sport.
Ah oui, c'est le boxeur le mieux payé au monde. Là.
C'est ça, exactement.
C'est le sportif le mieux payé au monde.
Exactement. Ouais, bah, lui, ce qu'il a tout de suite compris, c'est que s'il voulait pouvoir durer dans la boxe, il fallait qu'il trouve une technique, une parade pour pouvoir prendre le moins de coups possible. Tout en donnant, et ça a fonctionné parce qu'il a inventé sa propre parade et il est devenu le plus grand des champions de boxe anglaise. Donc du coup, il y a des moyens, je pense qu'il y a des moyens de durer, mais effectivement, c'est jamais sans conséquence. De toute façon, dès lors que c'est professionnel, dès lors qu'il y a un engouement général sur une discipline et que ça génère également, il faut le dire, beaucoup d'argent, forcément, à un moment donné, il y a des sacrifices et très souvent, c'est les sportifs qui en pâtissent le premier.
Très bien, merci messieurs. La deuxième pause musicale, ensuite la page foot avec notre ami Stéphane Desenclos.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au
Voilà, Jean-Luc, c'était donc le choix musical par rapport à la pelote basque, André Dassary. Voilà.
Oui, ouais, hein,
c'était pour faire un petit coucou.
On connaît bien Dassary. Oui,
voilà. Vous vouliez rajouter une petite annonce concernant une épreuve que vous allez prochainement organiser?
Oui, la Fédération internationale de pelote basque qui s'associe avec la Fédération française pour organiser la Ligue des Nations en trinqué.
Mmh. Ah bah, comme pour
lieu,
le foot.
Voilà, qui aura lieu du 22 au 28 et 30 septembre 2024. Cette compétition aura lieu sur le fronton de Chiquito de Cambo, le trinqué plutôt de Chiquito de Cambo, et le trinqué de la cavalerie dans le 15e, le nôtre. Et donc on a le plaisir d'accueillir cette compétition internationale. C'est la première fois. Il y aura les meilleurs pratiquants du monde, masculin, féminin, que ce soit à main nue, à charret, à baline ou à palette à cuir. Et il va y avoir des parties exceptionnelles. On a le top du top, là.
D'accord. Voilà. OK. Donc, venez.
Venez. Voilà.
C'est gratuit, c'est payant?
Non, ça sera payant, bien sûr, ouais. Parce que toute organisation nécessite des entrées, mais les entrées seront pas chères, vous verrez. C'est très accessible.
D'accord. Alors, avant d'avoir donc notre ami Stéphane, un petit rajout.
Oui, un Vanessa petit rajout sur le badminton, puisqu'on n'avait pas parlé de nous françaises en simple dame. Et donc, Xu Feiqi, qui a été battue en 8e par l'Écossaise Christy Gilmore, qui était l'une des finalistes. Et puis, tout de même, deux Françaises aussi en quart de finale, Léonie Sué et Rosie Octavia Pancarasi.
Très bien. Il ne fallait pas les oublier. Voilà. Bonsoir, Stéphane Desenclos.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tes invités, toutes et à tous.
Quelle folle semaine de foot, Stéphane. Hein hein. Donc on va naturellement commenter tout ce qui s'est passé cette semaine. On va naturellement commencer par la défaite du Paris Saint-Germain face à Barcelone 3-2. J'ai envie de dire qu'à travers ce match, c'est toute la saison résumée du Paris Saint-Germain.
Oui, je sais pas, moi je sais pas trop.
Il y a eu de l'impuissance, il y a eu de l'euphorie, et puis il y a eu des erreurs défensives qui ont fait que
l'ascenseur émotionnel assez fort. Et puis, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué à analyser que ça a été fait par certains ou que ça peut être fait, quoi. Faudrait beaucoup, beaucoup de temps parce qu'effectivement, il y a eu. Pour ma part, je pense qu'il y a eu quand même quelques défaillances individuelles. Alors on peut incriminer beaucoup Lucien Riquet si on veut, mais je pense qu'il y a quand même eu pas mal de défaillances individuelles, notamment Donnarumma, par exemple, dans les buts. Et l'entraîneur, il n'y peut rien, quoi. Mais c'est sûr que Bon, je ne sais pas si c'est la saison du PSG.
Ils sont passés par tous les états, Paris, dans ce match. Une certaine forme d'impuissance au début, en dominant. Après, l'euphorie avec les buts de Dembélé et puis donc Vitinha, sans oublier également les tirs sur le poteau. Et puis ces grosses erreurs défensives qui, quand même, coûtent cher à l'arrivée.
Mais je ne trouve pas que ça soit le... C'est pas franchement le résumé de leur saison, parce que je veux dire que jusqu'à ce match-là, si on enlève peut-être le match à Newcastle qui est complètement raté, qui est cauchemardesque, Paris s'en est quand même bien sorti. La preuve, ils ont perdu qu'un seul match, un seul match en championnat, ils sont en finale de la Coupe de France. Je pense que dans l'ensemble, le Real Sociedad, c'était une équipe inférieure. Il n'y a pas eu de frayeur, il n'y a pas eu de rien du tout. C'est passé comme une lettre à la poste, de matchs, de victoires tranquilles, quoi, à part une mi-temps ratée. Donc, je pense que c'est un couac pour moi qui est beaucoup lié à quelques contre-performances individuelles. Alors après, effectivement, peut-être aussi les détracteurs de Luis Enrique diront que c'est parce qu'on a aussi mis les joueurs dans des mauvaises conditions. Mais bon, Donnarumma, je pense qu'il était dans des bonnes conditions.
Je trouve que vous sous-estimez un petit peu Barcelone, là, quand même, dans ce match. On dirait que Paris est le seul responsable de la victoire du Barça, mais ils ont fait un bon match, quand même, là, les Catalans.
Je suis tout à fait d'accord. On parle du Paris Saint-Germain. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, voilà. En plus de ça,
en vrai, il y a des petites erreurs individuelles, mais c'est pas des grosses erreurs. Sur le but sur corner, effectivement, il y a un problème de marquage. Par contre, sur le deuxième but de Rafinha, l'appel est fou, la passe est magnifique, absolument lunaire de Pedri. Je pense que c'était très dur de l'avoir.
Ah oui, non, mais ça c'est le seul. Moi, je suis tout à fait d'accord. On oublie souvent, très souvent, les gens oublient de dire qu'il y a un adversaire qui, effectivement, a su élever son niveau de jeu. Maintenant, pour ma part, à moi, sur les deux, c'est pas que qu'il n'aurait jamais dû être encaissé, mais sur les connaissant Donnarumma, la saison que fait Donnarumma, sur les trois buts, il y en a deux qui sont pour lui, pour moi.
Et oui. Bon, Stéphane, on va quand même revenir sur les autres matchs. Donc, avec le match qui sera peut-être le match de la saison, hein, comme il y en a très souvent en Ligue des Champions, Real Madrid, Manchester City 3-3. Autre super beau match de foot, c'était Arsenal-Bayern de Munich de partout. Et puis la victoire de l'Atlético devant Dortmund 2-1. Donc ça nous promet une belle deuxième semaine qui arrive. Hein. Tout est possible.
Peut-être, à part Dortmund-Atlético.
Oui, encore, mathématiquement, ils ne sont pas condamnés. Voilà.
Ils ne sont pas encore éliminés, Dortmund. Ouais. Hein, mais en tout cas, on va voir l'Atlético dans tout son côté qu'on n'aime pas trop, quoi, qu'on n'apprécie pas forcément en termes de jeu et tout. C'est que ça va être cadenassé dans tous les coins et que ça va être très dur pour les Allemands jouer. Sinon, oui, effectivement, tous les autres matchs restent très, très, très ouverts quand même. Quoi. Donc, ça va être intéressant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de buts dans ces quarts de finale. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas pareil cette semaine.
Oui. Darius, juste un petit mot sur ces matchs retour qui s'annoncent. C'est vrai qu'on va vivre une super belle semaine.
Hein. Ah oui, ça va être extraordinaire si c'est à l'image de la première semaine qu'on a vécue. Moi, j'ai forcément beaucoup aimé le match de City contre Real, mais je pense que j'ai encore plus aimé le match contre Arsenal et Bayern. Je suis un supporter de Arsenal. C'était dur quand même de voir la domination que imposait Arsenal, et pourtant dans le score ça n'a pas été retransmis. Encore une fois, dû à des erreurs individuelles que Arsenal n'a pas fait le restant de la saison, et là sous l'occasion, sous les grandes lumières de la Ligue des Champions, malheureusement ils se sont un peu écroulés. Mais c'est tout à la gloire du Bayern qui a vraiment su pour le coup punir quand il le fallait le plus Arsenal. Et des très beaux matchs de football avec des super buts.
Bien sûr. Bon, Stéphane, il y a aussi match retour entre Marseille et Benfica qui s'annonce aussi indécis. Hein, Benfica qui s'est imposé 2-1 devant Marseille, mais finalement, ça reste possible pour l'Olympique de Marseille. On va rappeler que l'AS Roma a battu le Milan AC 1-0. Surtout Liverpool qui a été écrasé à domicile par Bergame 3-0. Et puis le Bayer Leverkusen avant de fêter son titre de champion d'Allemagne qui a battu West Ham 2-0.
Voilà, tout à fait. Ça va quand même être assez West Ham, Leverkusen. Ça va être un match, je pense, assez intéressant à suivre. Maintenant, je pense que Leverkusen va passer. L'OM, pour ce qui concerne l'OM, ça va être très compliqué. Moi, je pense que je mets, même si les résultats du match aller, je mets un peu l'OM et le Paris Saint-Germain sur le même plan au niveau des chances de passer, quoi. C'est-à-dire, je vais dire, c'est dans, je pense que c'est 60-40, 60 pour les Portugais et 40 pour l'OM,
à
comme pareil pour Paris.
L'OM joue à domicile
pour les Espagnols et 40 pour Paris.
Pas tous en même temps. Pardon, ouais.
À la différence que l'OM joue à domicile quand même pour le match retour, contrairement au PSG qui joue à l'extérieur.
Mmh. Ouais, c'est pour ça que je mets ça, que je mets égalité, parce que c'est pour ça, parce que je pense que Paris a autant de chances de s'imposer à Barcelone que l'OM de s'imposer au Vélodrome.
Oui,
mais c'est ce que je pense moins, hein, donc ça se trouve c'est pas ce qui va arriver, parce que l'effectif de Marseille quand même. C'est compliqué quand même.
Merci Aubameyang.
Heureusement qu'il est là.
Ouais,
ouais, ouais. Merci Aubameyang.
Ouais, tout à fait.
Ouais, la Ligue Europa Conférence. Alors là aussi, Lille garde toutes ses chances malgré sa défaite contre Aston Villa 2-1. On va rappeler que l'Olympiakos a battu Fenerbahçe 3-2, nul entre Victoria Plzeň et la Fiorentina 0-0, et Bruges qui bat le POK Salonique 1-0.
Ouais, tout à fait. Bah, gros, énorme, énorme match de... C'est le match le plus abouti des trois équipes françaises, hein, de Lille, ouais. En Angleterre, hein, qui a été un super match. Je pense même que le résultat il est peut-être un peu sévère. Ils ont eu quand même des opportunités, Lille, pour faire un petit peu mieux. Alors on va voir au résultat, mais c'est pareil, ça va être très très compliqué contre les équipes anglaises. On va voir ça va être l'occasion de voir les progrès du football français, parce qu'il y a encore 10 ans ou 15 ans, ça se termine 1-0 pour Villa sur un contre ou quelque chose comme ça. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est sûr que eux c'est peut-être un peu plus, mais ça reste 52-40, je ne cache pas un avantage un petit peu supérieur quand même aux Anglais qui sont sur le papier peut-être plus forts, mais je pense que Lille, je l'ai toujours dit, j'étais le seul à dire que Lille je les voyais passer. Moi, je crois toujours en cette équipe.
D'accord. Ok.
Bah, sur papier, ouais. S'il y a quand même un énorme écart de niveau. C'est vrai que sur le match, il y avait de quoi se poser des questions. Il a fait un excellent match et peut-être que c'est vrai que le score est un peu dur, mais il y a quand même un très gros écart d'effectif.
D'effectif, je sais pas. Oui, de niveau, il y a un écart de niveau, bien sûr. Quand tu es le quatrième de première ligue. Contre le quatrième de Ligue 1, contre le quatrième de Ligue 1, il y a forcément un énorme niveau, bien sûr. Si on veut aller là-dedans, on peut regarder, je les connais pas, mais je suis sûr que le budget d'Aston Villa, il est trois, quatre fois supérieur à celui de Lille. C'est sûr que sur le papier, mais moi, j'ai toujours dit que cette équipe de Lille, elle a les ingrédients, elle a ce qui permet, elle a une super organisation, elle a un très bon coach, elle a quand même c'est une équipe qui après le Paris Saint-Germain et peut-être Lyon depuis
la trêve hivernale, qui a un très bon. Elle est régulière depuis quelques saisons quand même. Elle est dans le top 5. Hein.
Ouais, et puis non, mais je trouve qu'ils ont un effectif très intéressant. Ils ont un effectif assez profond. Non, moi j'aime vraiment beaucoup cette équipe. Je trouve que c'est une très très bonne équipe et j'ai toujours accordé à Lille des chances de passer, quand déjà beaucoup disaient, vu la différence d'effectif, ils vont prendre une volée quand ils vont aller jouer. Maintenant, c'est sûr qu'Aston Villa, c'est une grosse équipe qui a gagné, je crois, qui vient de gagner à Tottenham, je crois, 4-0 ou 4-1 ou je ne sais pas combien.
Ils ont gagné 2-0 à Arsenal, là, ce week-end.
Ouais, c'est une grosse équipe. Maintenant, ils étaient attendus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient dit que Lille ne perdrait que 2-1 en Angleterre, quoi. Donc, je pense que tout est possible, mais ça va être. Ça va être très, très. De toute façon, ça va être très dur pour les trois équipes, hein, Yann.
Bah, on va se régaler. On peut en avoir trois qui sortent comme on peut en avoir trois qui passent. Hein, voilà.
Ouais, exactement.
Voilà. Allez, on en vient à la journée de championnat. Une journée de championnat, j'allais dire en deux parties, hein, puisque pour ménager justement les clubs français, eh bien, on jouera Lorient, Paris Saint-Germain, Monaco-Lille et Marseille-Nice le 24 avril. On va toutefois quand même noter la victoire de Metz devant Lens 2-1. Strasbourg qui a battu Reims 3-1. Défaite à domicile une nouvelle fois de Rennes face à Toulouse 2-1. victoire importante de Nantes au Havre 1-0, et puis nul entre Clermont et Montpellier 1 partout. Et puis hier, peut-être un des meilleurs matchs de la saison de Ligue 1, Lyon qui bat Brest 4-3. On va rappeler quand même que le PSG est en tête avec 63 points, devant Brest 2e 53, 3e Monaco 52, 4e Lille 49, 5e Nice 44 avec, et 6e Lens 43. Ça, c'est pour parler des équipes qui pour l'instant sont et jouent l'Europe. Mais Lyon n'est pas loin, Reims n'est pas loin, et tout reste possible, hein, Stéphane.
Ah, tout reste possible. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même souligner cet extraordinaire parcours de Lyon. Donc moi, j'ai pas de honte à dire que moi personnellement, j'y croyais pas du tout. Je croyais pas du tout à cette résurrection, à cette remontada de Lyon. Et c'est vrai que ils sont tellement enthousiasmants que du coup, ils ont même tout pour eux, quoi. Hier. Si on veut pas trop non plus parler que de l'arbitrage, ils ont eu les décisions arbitrales, sachant que eux, personnellement, ils n'y sont pour rien, hein, les Lyonnais. Ils ont quand même eu les décisions arbitrales pour eux. Ils ont eu cette chance avec ce tir de Doumbia sur la barre transversale. Ils ont eu la chance pour eux. Ils ont tout eu pour eux. Tout a tourné en leur faveur. Donc après, c'est vrai qu'on se dit que tout peut arriver. Hein. On parlait de leur parcours très compliqué. Ils sont aujourd'hui 7e. Ouais. Certes, il y a
si
que l'OM.
Si Paris gagne la Coupe de France, ils sont européens.
Si le championnat s'arrêtait maintenant, ils seraient européens quoi qu'il arrive. Parce que s'ils gagnent la Coupe de France, ils jouent la Ligue Europa. Et s'ils perdent la Coupe de France et Paris la gagne, à ce moment-là, la 7e place devient qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Et eux, ils en profitent. Donc pour l'instant, c'est bien. Ils sont menacés par Marseille, qui a son match qui a été reporté contre Nice au Vélodrome. C'est pas évident forcément que Marseille.
C'est chaud les Marseille-Nice, hein, habituellement. Hein. C'est chaud. Hein.
C'est des matchs très très chauds. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont pas mal. Maintenant, ils viennent au parc. La prochaine journée, ils vont jouer au parc. Et ben. On ne sait pas non plus, c'est une équipe qui peut peut-être faire aussi un résultat au parc, on ne sait pas. Donc c'est vrai que, mais surtout, c'était un match fabuleux avec deux équipes. Moi, Brest m'a épaté, peut-être encore plus que Lyon, qui a eu peut-être un peu de chance. Je pense que Lyon a été quand même moins bon que Brest sur le match d'hier, mais finit par l'emporter. Et Brest est quand même assez épatant, quoi. C'était un match. Un des plus beaux. Moi personnellement, j'ai pas souvenir de plus beau match de Ligue 1 cette saison. Ouais.
Allez, en bas de tableau, donc pas beaucoup de changements. Nantes 14e, 31 points. 15e, Le Havre, 28 points. Et puis 16e, Lorient et Metz, 26 points. 18e, Clermont, 22. Pour Clermont, c'est cuit.
Ouais, pour Clermont, c'est cuit. Bon, je pense qu'on le savait depuis longtemps. On va dire, quand ils menaient 1-0 au parc, on pouvait se dire si c'était resté comme ça et qu'ils avaient gagné contre Montpellier, ça leur fait 4 points de plus, ils seraient dans le combat. Là, ça a l'air de se réveiller un petit peu aussi en bas quand même, quoi, avec des équipes comme Nantes, quelle autre équipe a fait
pas Havre, Metz qui a gagné.
Metz, chercher Metz, qui a gagné au terme d'ailleurs d'un très bon match. Et bien c'est Lens qui va perdre, à mon avis, qui risque de perdre gros sur cette fin de saison, parce qu'à mon avis, Lens, ils ne sont plus. Hein. Ouais. Ils sont complètement dans le trou. Ils ne sont plus du tout. Quoi.
Allez, la Ligue 2. Alors là aussi, il y a eu des renversements de situation assez fous quand même. Hein. On est à 6 journées de la fin, 32e journée. Auxerre battu 4-3 à Quevilly-Rouen. Saint-Etienne battu à Ajaccio 2-0. On va noter la victoire d'Annecy à Laval 3-0. Celle de Caen à domicile devant Rodez 1-0. Le Paris FC qui va gagner à 3-2-1. Et puis match qui aurait plu aux anciens avec la victoire de Bastia à Bordeaux 3-2. Ce soir, on a Grenoble-Angers à 20h45. Mais ce qui est fou, c'est que bon, Auxerre est quand même assez largement en tête avec 61 points. Mais derrière, Saint-Etienne, deuxième à égalité avec Angers 54. Et le Paris FC, hein, qu'on mettait en milieu de tableau, le Paris FC, ils sont quatrième avec Laval, 49 points. Ça veut dire qu'ils sont pour l'instant barragistes pour les playoffs. Sixième Caen, 48. Septième Rodez, Guingamp et Pau, 47. Donc là aussi, tout est possible.
Ouais, tout est possible. Bah, c'est pas la première fois qu'on en parle. Hein. Toutes les saisons, toutes les saisons en Ligue 2, il y a tout le temps une équipe qui revient du, euh, du fond ou de, qui revient de du bas pour se mêler à la lutte. Et ben cette année ça a l'air d'être le Paris FC hein, qui a,
ouais, mais
qui
c'est
a
vrai
des
qu'on
moments
voyait,
difficiles en fait. De cette saison et puis qui est là quoi et qu'enchaîne.
Ils sont habitués au pré-barrage, hein. Ils sont habitués, mais c'est vrai qu'on les voyait carrément finir dans le milieu de tableau. Ils ont bien remonté comme Saint-Étienne d'ailleurs, hein.
Oui, mais comme Saint-Etienne, mais à un moment donné, c'était encore pire, parce qu'à un moment donné, Stéphane Gilly était carrément sur la sellette, hein, il parlait de s'en séparer, donc c'était vraiment très très chaud, quoi, et puis finalement, il a gardé la confiance, et puis ils ont enchaîné les bons résultats, et puis les voilà ici maintenant, c'est solide, avec... quand même 3 qui va très très mal.
Oui,
quand même.
3 sont bien partis pour être en national, malheureusement. Hein. C'est quand même fou, quoi. Allez,
et c'est complètement fou.
Et ben justement, le national, 29e journée, le Red Star y est pratiquement, après sa victoire à Marignane-Ginac 2-0. À noter que Niort a battu le Gol FC 2-0. Versailles a gagné à Nîmes 1-0. Ce soir, il y a Nancy-Martigues qui se joue, donc qui doit se terminer pas très loin, donc, puisque le match a commencé à 18h30. Le Red Star en tête avec 62 points, devant Niort deuxième 52, troisième Martigues 49 et neuvième Versailles donc 39 points.
Ouais. Et après une heure de jeu, Nancy menait contre Martigues.
Oui, oui.
Et si jamais le résultat se confirmait, là je faudrait regarder là, mais si le résultat se confirme, il faudrait plus qu'une seule victoire. Une seule victoire à Red Star, par exemple,
pour se maintenir
le prochain match du Red Star contre Dijon à domicile, s'ils gagnent, ils sont en Ligue 2.
Oui, pour monter donc officiellement. Allez, un petit mot pour nous de la 22e journée. Le Paris Atlético qui va gagner aux Herbiers 2-0. Donc la situation, elle reste la même. Libourne et La Roche-sur-Yon en tête avec 39 points. Et troisième, le Paris Atlético à un petit point, donc 38 points. Donc on a eu la belle nouvelle pour le basket parisien. On va peut-être avoir une belle nouvelle pour le foot parisien du 13e avec une remontée en national. Un petit mot pour finir sur les féminines, donc les éliminatoires de l'Euro. Après la victoire contre l'Irlande 1-0, l'équipe de France est allée gagner en Suède 1-0. Pour l'instant, elle est en tête de sa poule avec 6 points devant l'Angleterre 4 points, la Suède 3 points, donc 3e avec 1 point, 4e l'Irlande 0 points. Les deux prochains matchs, c'est face aux Anglaises. Et Hervé Renard nous le disait la semaine dernière, ça passe impérativement pour une montée en puissance vis-à-vis du tournoi olympique.
Ouais, tout à fait. Et puis bon, il y a eu aussi, depuis, ils ont joué en championnat aussi. Hein, avec, on se rend compte, ce qu'on disait, que voilà, ils ont joué aussi en championnat, ça bouge pas. Puis jusque maintenant, ça bougera plus quasiment jusqu'au play-off. Hein, donc,
on
est toujours devant
largement.
Gagné. Là, j'ai vu un Nancy bat Martigues. Le match est à la 90e minute, il y a 3-1 pour Nancy.
Donc c'est fini. Donc Martigues reste 3e, mais
Martigues 3e à 15 points, je crois, un truc comme ça. À 13 points. 3e à 13 points, ça veut dire qu'il reste 5 matchs. Je crois qu'il reste 5 matchs. Si,
ils ont 49 points. Ils sont à 3 points de Niort. Voilà.
Si Red Star gagne son prochain match contre Dijon à domicile, je pense qu'ils seront officiellement... ils auront donc toujours 13 points d'avance sur le 3e et ils seront officiellement en Ligue 2.
Alors justement, on finit avec le championnat féminin. Tu en parlais, Paris FC Reims, 2 partout. Guingamp, Paris Saint-Germain, match nul aussi. Là aussi, il y a eu des buts, 3 partout. Victoire de Lyon à Saint-Etienne dans le derby 6-1. Et puis Fleury-Mérogis qui va gagner à Bordeaux 3-0. Donc Lyon en tête avec 58 points devant le PSG, deuxième 49 points, troisième le Paris FC qui jouera son match en retard contre Saint-Etienne vendredi soir à Charletti, à égalité avec Reims 31 points, et cinquième donc Fleury 30 points, donc là aussi pour les playoffs c'est serré.
Ouais, je sais pas, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit là, il y a Lyon premier, Paris deuxième et
après, c'est Paris. Le PFC et Reims 31 points et puis Fleury cinquième 30 points, voilà.
Ah bon, seulement 31 points.
Mais il y a un match en retard pour le Paris FC que je disais, les féminines vont jouer vendredi à Charletti contre Saint-Etienne.
Ah, donc on se retrouve avec Lyon et Paris chacun dans une demi-finale. Et puis, bon, normalement, aux autres de faire l'exploit, sinon ça sera une finale du championnat Paris-Lyon-PSG à tous les coups. Donc voilà, on voit bien que les Parisiennes, elles sont relâchées. Il y a la Ligue des Champions cette semaine, je crois. Donc
la semaine d'après, après la Ligue des Champions hommes.
C'est cette semaine, non, c'est ça qui joue
non,
le Paris.
Non, c'est la semaine après la Ligue des Champions Hommes. Les deux compétitions ne se jouent pas en même temps, hein, Stéphane.
Ah d'accord, donc dans 10 jours, oui. c'est...
Voilà.
D'accord. Donc voilà, maintenant, c'est ce qui leur apporte, une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui c'est un peu... Donc ils attendent ça, hein, les playoffs, et puis les playoffs, et puis le match de la Ligue des Champions, quoi. Donc ça va dérouler tranquille. Bordeaux est déjà en D2, officiellement, je crois, hein, les derniers sont déjà en D2. Donc c'est quand même une au passage, on peut dire que ça va quand même pas très bien pour le foot bordelais, hein, oui. Pour les Girondins. Oui. Hein, le club n'est pas en grande forme. Hein.
Ouais, c'est moins qu'on peut le dire. Merci Stéphane, on te retrouve tout à l'heure avec Malik et puis Darius qui ne va pas bouger. Hein. Au bout du foot, vous allez prolonger, vous allez aller encore un peu plus loin dans les commentaires et les analyses de match. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. On aura beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter.
Ah bah ouais, ça va être chou là.
Ah oui, quelle semaine.
Allez,
merci, à tout à l'heure
bonne soirée à toi,
avec Malik.
Bonne soirée.
Ouais. Vous aimez le foot?
Oui, j'ai pratiqué le foot de nombreuses années aussi, en plus de la pelote. Donc, je suis un fervent supporter des Girondins de Bordeaux. Dans ce que vous évoquez.
C'est vrai que ça ne va pas très bien actuellement.
Absolument. Ouais. C'est pas terrible. Non.
Bordeaux, ça ne va pas très bien.
Non, mais les histoires récentes, notamment il y a deux saisons, là, quand ils ont joué la montée, ont laissé beaucoup de traces au sein du club. Mm-hmm. Effectivement.
C'est quand même incroyable qu'une ville comme ça soit tombée si bas.
Un club comme ça aussi.
Mais la ville, la ville est pour pas grand chose en fait. Hein. C'est surtout le club.
Un peu des deux quoi. Mais enfin,
Bien sûr, c'est compliqué. Je pense que la gestion M6 à l'époque n'était pas forcément non plus.
Et puis à un moment, la ville, elle veut plus suivre quand il y a une mauvaise gestion.
C'est ça. C'est de l'argent public, donc. L'argent public n'est pas là pour alimenter forcément le sport professionnel. Le sport professionnel de ce niveau-là, il doit s'auto-alimenter, hein, entre guillemets. Donc, je pense que c'est essentiel. Mais il n'empêche qu'il doit y avoir un environnement favorable à tout ça. Et à l'époque, effectivement, il y a quelques années, c'était pas ça. Je suis très triste de cette situation.
Voilà, pour finir, vous êtes parti d'être venu chez nous quand
même. Non, absolument pas.
C'était très bien.
Bon, c'était
juste
un
tout petit mot, on va finir avec encore une petite minute. L'arbitrage, il est souvent contesté en pelote basque.
Ah non, il n'est pas contestable d'ailleurs.
Je me vais te poser la question.
Moi, je fais souvent la comparaison de l'arbitrage du foot et de l'arbitrage du rugby. On voit bien quand même les écarts de comportement des joueurs professionnels. À la pelote,
conteste pas.
Ah non, c'est plutôt côté rugby, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a peu de situations qui nécessitent un arbitrage et une prise de décision. C'est souvent quand les pelotes sont litigieuses, un peu comme au tennis, sont limite des lignes. Et à ce moment-là, effectivement, les joueurs tentent un petit peu le rapport de force. Hein. Donc l'arbitre intervient et règle la situation.
Très bien, merci Jean-Luc.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil.
Merci Vanessa. Rendez-vous la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
J-100. Salut Darius. À très bientôt.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et puis, je vais saluer Benoît. Merci à Jason d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. On vous laisse avec notre ami Malik et toute la bande de Au bout du foot dans quelques minutes qui prend le relais. Belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
Merci, au revoir.
Les parois de ma vie s'enlisent, je m'y accroche mais je glisse, lentement vers ma destinée, mourir d'aimer, tandis que le monde me
Paris FM.